Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Regards croisés avec Arlette Farah
et Fulgence Blair.
Bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
Aujourd'hui, je me fais vraiment plaisir en parlant théâtre. Donc, on va recevoir Anna Pfeiffer-Quiroz, qui est metteur en scène, co-réalisatrice, et co-autrice de la pièce Happy Hour. Et voilà, donc je pense qu'on a plein de choses à dire là-dessus, on va en apprendre.
Oui, en deuxième partie d'émission, on va recevoir Adi Anne, qui est porte-parole de l'organisme Solidarité Sans Frontières, SSF, qui va nous parler de la grande marche historique qui arrive bientôt de Montréal vers Ottawa.
D'accord, une marche pour les... pour soutenir...
soutenir les immigrants qui ont des problèmes de régularisation, tout ça
de
et
papier.
Autres, de papier, voilà.
Hâte d'en savoir un peu plus. Alors, dans l'instant, on va partir en musique avec Miossec, qui nous chante « Chanson pour Nathalie ». Alors, Anna Pfeiffer-Quiroz, bonjour.
Bonjour, Arlène. Enchantée.
Oh, j'adore votre accent.
Bonjour, alors
avant,
bonjour, Anna.
Avant bonjour. Que, on en parle un petit peu plus de la pièce, je voudrais qu'on vous connaisse mieux. Donc, vous avez fait une recherche dans le cadre de votre maîtrise sur la faible représentation des femmes immigrantes dans le théâtre québécois. Mais en lisant que vous aviez fait vos études théâtrales au Pérou, vous les avez faites, j'imagine, pendant la dictature du président Fujimori,
oui,
qui a quand même été condamné pour crime contre l'humanité. Donc,
oui.
Ma question aurait été, c'est quoi votre expérience là-bas, et puis en tant qu'immigrante et en tant qu'immigrante artiste? Alors, je sais que c'est une grosse question, mais on vous écoute.
Bon, merci. Bon, oui, effectivement, j'ai devenu artiste en pleine dictature à Lima, au Pérou. Pour moi, ça a marqué ma vision de l'art. Je peux dire que j'ai compris si rapidement et si, on peut dire, violemment, dans le sens rapidement, dans le sens de vélocité, que l'art doit avoir un rapport étroit avec la société. Pour moi, c'est nécessaire. J'ai l'appris comme, dans un contexte pas le meilleur, mais c'était comme ça.
Oui, c'était la politique.
Oui, oui. Alors, je dirais que ça, oui, ça nourrit beaucoup mon travail. Quand je suis venue ici, effectivement, j'ai fait une maîtrise en théâtre où ce que j'ai un peu questionné la faible représentativité des artistes dites de la diversité en général, hommes, femmes, immigrants, mais aussi par exemple des actrices ou des acteurs comme Anna Beaupré, qui est québécoise, oui. mais que son père était congolais, la mère était québécoise. Alors, oui. il y a plein de variantes, les équations sont multiples. Et voilà, ça c'était ma maîtrise. Et maintenant, j'ai question plutôt maintenant je suis dans une étude doctorale dont je cherche à explorer la cohabitation des récits intimes des femmes par rapport au personnage shakespearien de Lady Macbeth. Ah. Alors, maintenant, c'est encore pour moi cette besoin de mettre sur scène des paroles qu'on n'entend pas souvent. Oui, je pense que je peux définir comme ça mon rapport. J'ai commencé comme comédienne.
Oui.
J'ai fait la mise en scène, mais c'est ici, à Montréal, qu'à partir de mon travail de recherche, je peux dire que j'ai trouvé ma façon d'écrire dans la scène. C'est qu'on peut appeler l'écriture des plateaux ou une dramaturgie plutôt dans les nouvelles vagues. C'est ici que j'ai commencé à construire cette esthétique grâce au dialogue que je peux faire entre ma pratique, entre l'exploration, mais aussi entre l'académique ou les théories. Alors, je dois beaucoup à Montréal.
Alors, oui. justement, quand vous êtes arrivée à Montréal, vous êtes venue en tant qu'immigrante? Quelle différence vous faites entre arriver en tant qu'immigrante et puis être immigrante artiste? L'un est plus compliqué que l'autre ou les deux se tiennent?
Oui, je pense que oui, non. C'est-à-dire, c'est compliqué parce que c'est sûr que quand tu viens déjà avec toute une expérience derrière toi, et personne ici te connaît, écoute, c'est pas drôle.
Oui, c'est vrai, je reconnais.
Tu dois commencer tout de nouveau et tout doit être, dans mon cas, j'ai réfléchi beaucoup. Il faut, c'est-à-dire, je disais, je veux pas commencer tout, c'est-à-dire, je veux pas apprendre à faire du théâtre ici, je sais comment le faire. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau, mais sans changer de carrière, parce que, évidemment, quand tu es immigrant, c'est très difficile de rentrer dans ton même métier ou même d'exceller dans ton métier. Plusieurs immigrants, ils doivent changer de métier. C'est que je trouve pénible, parce que je pense qu'on est en train de perdre toute une richesse. Oui. une expérience. Alors, mais pour moi, c'était pas question. Je suis pas venue ici pour changer de métier. C'était trop tard pour moi. Et je dis simplement comment faire pour avancer, pas pour reculer. Et aussi apprendre aussi dans le nouvel territoire qui pour moi était le Montréal. Alors, c'est comme ça que j'ai dit, je vais faire de la recherche, même si ça peut être théorique, c'est-à-dire que j'aime beaucoup la recherche, j'aimais toujours. Alors j'ai dit, ça c'est une chose que jamais j'ai fait dans l'académie. Je viens d'une école, comme les conservatoires ici, c'est plutôt la pratique et toute mon expérience après, mais jamais j'ai fait comme des études plus théoriques. Et j'ai dit, ah, j'aime ça, je vais prendre ça avec beaucoup de calme aussi, que ça va m'aider à connaître plus la langue aussi.
Oui, il y a ça aussi.
C'est une immigrante, c'est une nouvelle langue.
Oui, bravo.
C'est une nouvelle façon de penser, c'est énorme, oui, c'est ça. Alors, j'ai dit, ça va m'aider. Je suis une personne qui aime lire, j'aime la recherche. Alors, c'était comme j'ai commencé à les faire en français. J'adore. J'adore. Je trouve que c'est beaucoup de auteurs. J'avais déjà lu à Lima, au Pérou, mais...
Vous aviez déjà étudié le français à Lima?
Non, pas français, mais les traductions en espagnol.
Ah alors, oui.
Pour moi, c'était aussi bien, quand j'ai appris aussi l'anglais, de lire oui. les auteurs que j'aimais en dans leur langue maternelle, c'est une autre chose. Alors, pour moi, c'était aussi mon aperture aux différentes langues. Aussi, je pense que ça fait un déclic dans mon esprit. Et je suis vraiment fière de ça. Même si ça coûtait le temps, c'est pas facile. Mm-hmm. Je le référerai encore.
Bon, ben c'est bien. Il suffit pas d'être immigrante. Il faut aussi, ça vous a rendu trilingue ou peut-être d'autres langues encore. Donc, bravo pour tout ça. Et puis, avant qu'on fasse on va faire une petite pause musicale et tout de suite après, on se lancera sur la pièce. Okay. Alors, je vais vous laisser en parler. Je viens de la voir.
Ok.
Et j'ai été très touchée par la façon dont c'est mis en scène aussi, en même temps que les textes, puisque vous dites, puisque vous avez tous ensemble monté une compagnie de création. Et on va s'arrêter là-dessus avant de passer en musique, en disant que votre compagnie s'appelle Parésia. Et il est écrit, c'est le courage de la vérité chez celui qui parle et prend le risque de dire, en dépit de tout, toute la vérité qu'il pense, mais c'est aussi le courage de l'interlocuteur qui accepte de recevoir comme vrai la vérité blessante qu'il entend. C'est de Michel Foucault. Donc on en parle tout à l'heure parce que moi j'en ai entendu des choses dans cette pièce aussi. À tout de suite, on fait une petite pause musicale avec Véranda qui nous chante Yodel Bleu.
Ça me fait comme mal aux commissures. En dedans, j'ai une fissure. J'ai les bleus.
J'ai les bleus.
J'ai les bleus. Ouh, mais quand j'ai yodel, je ne peux pas maintenir mon air de bleu. Et olé, olé. Personne, j'te jure, en solo. C'est moi et la loc au bout du bord qui t'aide la bouteille de fort. J'ai les bleus.
J'ai les bleus.
J'ai les bleus. Youhou. Mais quand je yodel, je ne peux pas maintenir mon air de bleu. Yodeler, yodeler. Maintenir mon air de bœuf.
Yeah.
Alors Anna Pfeiffer-Quiroz est toujours avec nous. Anna,
oui.
Parlons un petit peu de cette pièce. Alors, elle s'appelle ?
Elle s'appelle Happy Hour.
Oui.
Oui.
Et puis, vous l'avez un petit peu commencé avant la pandémie, puis ça s'est fermé presque tout de suite.
Oui. En fait, on a déjà présenté la pièce en février 2020.
C'est ça.
Oui, au Théâtre Prospero, dans la petite salle. On a fait 5
représentations.
Oui, mais avant la pandémie, c'est-à-dire on n'était pas touché directement.
Oui, pas encore.
On a fini, oui, c'est ça. Et après, on a reçu l'offre du Théâtre Stéchery. On était vraiment contents. Alors, on avait pour la faire comme normalement, présentiel, de façon présentielle, mais la pandémie est arrivée. Et on a décidé rapidement, c'est-à-dire dans les mois, je pense, décembre, on a décidé, on va faire ça sur le streaming, parce qu'on ne pense pas qu'on va ouvrir les théâtres, pas mieux, parce qu'en fait, les théâtres oui. sont ouverts les 26.
Mais c'est une création filmique, comme vous l'appelez, qui est diffusée sur le web avec le concours du Théâtre aux Écuries. Et oui. c'est du 1er au 11 avril 2021, oui. bien sûr.
Exactement, oui. Et pour Alors, ça, j'ai fait appel à la collaboration d'un artiste visuel, Alejandro de León.
Oui.
Lui, il est mexicain. Voilà, et j'ai dit, on va faire ça, mais je vais profiter. C'est-à-dire, je ne voulais pas faire comme une captation et simplement faire, OK, voici ma pièce.
Oui.
C'est parce que c'est deux codes différents, les théâtres et les films. Alors, je me suis dit, on va explorer cet espace et cette physicalité qui est propre au théâtre, à la scène, mais aussi dans ce temps de pandémie où est-ce que les salles sont vides. Alors, c'est pour ça que des fois, on voit aussi les sièges de ces spectateurs vides. Pour moi, ça, c'est
sûr.
Important
Alors...
de témoigner. Oui, avec un dialogue entre cette code plutôt de la performance.
Et Alors, c'est quoi ces dialogues? Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez voulu nous faire passer comme message et qu'est-ce qu'on a reçu?
Bon, c'est que je pense que Happy Hour, c'est des récits intimes
oui.
de cet être humain. Et à la base, on a travaillé, je travaille avec les acteurs à partir des récits propres, mais qui deviennent fictifs.
On a un homme et on a une femme.
Oui, on a une femme.
Un homme qui...
Elle se dévoile en petit brief.
Ça fait aussi un petit peu, Anna, comme début et continuité. Moi, je l'ai pris comme ça parce que Thomas Leblanc, lui, parle de... son enfance et de la découverte de sa sexualité.
Oui.
Hein? Tandis oui. que Anna Bopremolunda, elle parle de, j'ai envie de dire d'avant, c'est-à-dire quand on a un enfant, comment on le vit, comment on est mère, et quels sont les... D'ailleurs, il y a c'est des textes magnifiques. Alors, est-ce que c'est vous qui avez tout écrit ou vous avez écrit en co?
Oui. C'est une collaboration avec les acteurs pour ce que je parte du travail de la scène. C'est-à-dire, on a commencé avec des questions, avec un travail de table, je veux dire, raccourci, remplacé plutôt par une conversation sur les sujets. La question, c'était au début, parlez-moi de quelque chose que vous faites honte, des choses les plus... de nous-mêmes.
C'est sûr que vous allez loin quand même. Hein?
Oui, à partir de ça, c'est surtout dans une ambiance de confiance absolue.
Oui.
On est trois artistes qui on se connaît bien, qui on travaille bien ensemble. Mais à partir de ça, j'ai tiré à la fiction, c'est-à-dire j'exagérais. Pendant cette création, j'avais les livres comme par exemple La violence et le sacré de René Girard, Les boucs émissaires aussi de René Girard. Il y avait quelque chose que j'ai trouvé un peu, j'essayais de trouver les monstres dans
cachés à l'intérieur de nous.
Oui, chercher à l'intérieur, pas les choses la plus pas la plus belle, mais qui devient, je pense, à la femme belle quand le public se sent connecté avec ses récits si crus,
oui,
si profonds, mais aussi c'est très émouvant quand vous avez parlé, par exemple, d'Anna, par exemple, les personnages d'Anna et la mère, tous ces discours de la mère. Moi, je l'adore, je suis aussi mère, j'adore ma fille, mais j'adore ce texte parce que je pense que nous, comme femmes, des fois, la maternité, c'est un sac trop lourd.
C'est tout ce qui est fait, c'est pas que le fait de porter un enfant et de le mettre au monde, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est absolument énorme. Et quand elle le raconte, à la fois c'est drôle, mais avec des grincements de dents, et à la fois c'est puissant. Et surtout quand on voit les personnages dans la mise en scène, il y en a une qui commence toute seule et puis l'autre ne vient qu'après, et après ils se parlent, donc c'est quand même complètement différent.
Oui, c'est parce que je travaille pas, c'est-à-dire c'est pas un spectacle, on va dire, c'est pas les bel animal d'Aristote, c'est pas une histoire, c'est plusieurs petits récits qui peuvent construire des histoires multiples.
Tout à fait.
Ce sont des personnages, d'êtres humains qui sont chacun dans leur affaire, mais aussi de temps en temps ils peuvent se rencontrer aussi. Et aussi, c'est à partir de ce travail vraiment approfondi de la parole interne, j'ai trouvé, et c'est pour ça que le spectacle s'appelle Happy Hour, j'ai trouvé une résonance avec notre société d'aujourd'hui occidentale.
Oui, tout à fait.
Avec comme une solitude, on a perdu tous les repères. Aussi, il y a les monologues finaux de Thomas avec les questionnements qu'il fait à l'humanité. En fait, il faut le dire que ces monologues, la teneur de ces monologues, qu'est-ce qui reste, c'est fini, c'était avant la pandémie. Alors imaginez-vous quand la pandémie est déclenchée, tout le temps j'ai pensé au monologue final de Thomas. Alors je pense que dans mon écriture de plateau, dans mon approche à la scène, il y a toujours un rapport de l'intime, de ce qui nous sont dans notre imperfection et ce qui est notre, la société qui nous entoure. Je pense qu'il y a des liens vraiment qui vont d'un côté à l'autre sans tomber
En tout cas, ça commence demain et jusqu'au 10, on peut le voir non pas au théâtre pour l'instant, mais... Voilà,
exact.
On le voit de cette manière-là, c'est mieux que rien. Alors, c'est là, dans les dernières minutes, on termine. Mais juste avant de terminer, Fulgence aurait une question pour vous.
Oui, c'est pour non, juste pour la féliciter. Bon, moi, tout ce que je tente, elle me donne l'envie d'aller voir sa pièce. Anna, bravo. Merci. Et puis pour tout ce parcours artistique et puis cette réalisation, j'ai dit bravo. Et puis bon, mais quand je vous écoute, je me dis, bon, ça c'est une pièce à ne pas rater. Anna, et bon vent. Et voilà. Moi, je vais aller voir ça. Je vous le promets.
Merci, voilà. Merci beaucoup. Donc, on répète, création filmique qui est diffusée sur le web avec le Théâtre aux Écuries du 1er au 11 avril 2021. Donc, voilà, enfin maintenant, quoi, à partir de demain. Vous vous sentez comment, ça va?
Merci beaucoup.
Alors, bonne chance pour tout, puis bonne continuation, et puis bravo pour votre français impeccable. Hein. Franchement.
<Merci. rire> Bye.
Voilà, alors bonne continuation et puis bravo aux trois en tout cas.
Oui, merci beaucoup.
Je vous en prie. Alors, on va partir en musique avec Dominique Fils-Aimé qui nous chante Three Little Words. Restez avec nous parce que dans la deuxième partie, Fulgence,
on va recevoir le porte-parole de l'organisme Solidarité sans frontières qui va nous parler de la grande marche historique de Montréal à Ottawa. Sept jours.
Alors, pour ceux qui s'en sentent, ils peuvent toujours essayer de le faire.
Ouais,
ça commence quand en plus on va voir les dates.
On va voir les dates. Ils ont déjà fixé les dates, mais le plus important, c'est qu'est-ce qui est sorti de la conférence qui a eu lieu le samedi.
D'accord. Alors, on attend 2-3 minutes ou peut-être 4 et restez avec nous et puis on va en savoir plus tout de suite après ça.
On vous revient.
À tout de suite.
Tes regards croisés.
Tu m'as dit tranquillement, je m'en vais. Il reste de moins en moins de temps, de moins en moins de temps. Te faire croire que j'ai pas peur, c'est pas vrai. Je voulais pas y penser avant, pas y penser avant. Quand ta mémoire fera défaut, que mon visage sera inconnu, que mes mots te seront inutiles et que ma voix sera vaincue. Souviens-toi simplement que je t'aime, simplement que je t'aime. La vie c'est pas toujours comme on le voudrait. Ça fait mal par en dedans, de temps en temps. C'est bien vrai. Moi je voudrais te garder avec moi. Encore bas des printemps, mais la vie prend les devants. Quand le peu qu'il nous restera ne sera que des phrases décousues, que la douleur sera trop grande et que ton cœur sera vaincu. Souviens-toi simplement que je t'aime, simplement que je t'aime. Que je t'aime, simplement.
t'es parti. Un doux matin de juillet, entouré de tes enfants, et c'est l'hiver par un temps.
Alicia Deschênes, souviens-toi simplement. Belle pièce musicale. Voilà, là, on a déjà notre invité au téléphone, Adi Anne, porte-parole de l'organisme Solidarité sans frontières, qui va nous parler de la grande marche historique de 7 jours. Mais avant d'en arriver là, il va nous d'abord présenter l'organisme SSF, Solidarité sans frontières. Oui. Bonjour Adi Anne.
Bonjour.
Bonjour et bonjour à tous. J'en profite aussi à dire bonjour à tous vos auditeurs.
Merci, merci. Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Ouais, on va bien malgré...
On a hâte d'en savoir plus.
D'en savoir plus sur votre organisme. Voilà, d'abord, commençons. Qu'est-ce que c'est que l'organisme Solidarité sans frontières, avant de passer à la conférence qui a eu lieu le samedi avec des grosses têtes autour de vous, avec vous, tout ça. Qu'est-ce que cet organisme qui a été créé, qui a été fondé, qui existe depuis un bon moment dans d'autres pays de l'autre côté de l'Atlantique, mais au Québec, c'est depuis, si je ne me trompe pas, c'est depuis 2003.
Oui, au Québec, c'est depuis 2003.
Oui.
Ouais, Solidarité sans frontières, comme son nom l'indique,
oui,
c'est une association de bonne volonté,
oui,
qui sont là aux côtés des migrants,
oui,
surtout principalement de ces migrants qui sont sans statut, sans papier, et qui errent un peu seuls. Donc, nous sommes là à leur côté.
Oui. Ah, génial. Merci, je dis bravo, merci. D'abord, il faut avoir le temps pour faire ce travail. Très bonne chose, comme dit ma collègue Arlette ici. Des migrants sans papier, voilà. Voilà, cette marche historique. Comment s'est passée la conférence de samedi passé?
Oui, la conférence de samedi passé était vraiment une grande réussite pour nous.
Oui.
Surtout pour nos partenaires aussi. Parce
oui,
que nous avons eu quand même une presse qui était là présente et surtout nos partenaires qui étaient présents. Et solidaire vraiment de ce qui se passe actuellement et solidaire de la marche qui se passera bientôt.
Oui, qui se prépare d'ailleurs. Il y avait la présence, il y avait vous qui étiez là à cette conférence d'ailleurs. Il y avait Youssef Benzouine, le Front d'Action Populaire et Aménagement Urbain, le FRAPRU, et puis Dolores Chiu, Fédération des Femmes de Québec, qui encore Albert Lalonde, la coalition étudiante pour un virage environnemental et social, Kev, et puis Nazila Betache, Soignons la justice sociale. Voilà. Comment vous avez pu réunir tout ce beau monde-là?
Ouais, parce que tout ce beau monde est un monde qui pense à la dignité humaine.
Oui.
Et je crois que quand on combat pour la dignité humaine, il n'y a pas de frontières et je ne vois pas comment on ne peut pas s'unir entre nous pour réunir nos forces et aller vers l'avant.
Oui.
Donc nous avons fondamentalement, c'est-à-dire le fond lui-même est le même, c'est la dignité humaine, c'est vraiment être là pour les autres qui ne peuvent pas être là, être les porte-voix des sans-voix.
Oui.
Donc c'est pourquoi c'était vraiment facile d'unir vraiment tout ce monde autour de nous.
Oui, 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 oui. Avec des plans ambitieux, cette marche historique de 7 jours de Montréal vers Ottawa, comment l'idée vous est venue?
Cette marche, elle n'est pas la première, parce qu'il y a eu Migrant Rights Network qui avait déjà organisé une marche similaire, mais elle a quitté plusieurs provinces. Peut-être celle-ci, elle va quitter juste Montréal pour Ottawa, mais aussi Migrant Network... je m'excuse un peu là, c'est toutefois. Donc, je disais, Migrant Rights Network est une organisation pan-canadienne qui avait organisé une marche similaire mais qui quittait plusieurs provinces et l'arrivée était à Ottawa. Donc, et comme c'est nos partenaires, nous aussi, cette fois-ci, on a pris la décision de quitter Montréal pour Ottawa. Donc l'idée était déjà, c'est-à-dire, c'est pas une première pour nous,
oui,
mais quand même... Effectivement, il fallait aussi prendre cette initiative de Montréal directement vers Ottawa.
Vers Ottawa. Vous avez déjà vos chaussures de marche?
Oh oui, moi j'ai mes chaussures de marche et je vous dis que j'ai commencé à courir parce qu'il faut vraiment avoir un beau fond.
ça, j'ai pensé quand j'ai vu ça.
C'est des bonnes chaussures.
Chaussures.
Ouais,
marche
ouais,
de 7
des
jours.
Conditions physiques, voilà.
Alors, voilà. est-ce que le gouvernement fédéral, ils ont déjà réagi ou ils savent que ça va se passer? Comment a été? Est-ce qu'ils ont réagi déjà à ça? Vous avez eu des échos de leur part?
Le gouvernement fédéral, comme d'habitude, il va réagir un peu. C'est-à-dire, il fait toujours un pas en avant pour en faire trois en arrière.
Oui.
Donc, nous, maintenant, on sait que la vérité est qu'on s'adresse beaucoup plus aux Québécois. On s'adresse beaucoup plus aux Canadiens.
Oui.
C'est-à-dire, c'est les premiers concernés parce que ces gens qui ne sont pas mis d'intérêt politique, ces gens qui sont juste, c'est-à-dire là pour penser l'intérêt humain, la dignité humaine elle-même.
Oui.
Parce que vu le contexte que nous vivons actuel, on a vu que quand la pandémie nous a enseigné quand même que notre monde est sans frontières, parce qu'aujourd'hui, la pandémie, elle n'épargne ni blanc, ni noir, ni jaune, elle n'épargne ni l'Europe, ni l'Amérique, ni l'Afrique. Donc, c'est à ces gens qu'on s'adresse vraiment.
Oui.
Donc, ce n'est pas des gens qui sont dans les calculs politiciens, qui se disent, est-ce que je serai élu demain ou après-demain ? Tu vois, est-ce que, voilà, j'aurai ceci ou cela ? Mais des gens qui sont prêts à tout donner et qui n'attendent absolument rien de retour.
Oui.
Donc, c'est à ces gens humains, c'est-à-dire qui ne pensent qu'à la dignité humaine. Oui. C'est à ces gens aujourd'hui qu'il faut parler. C'est à ces gens qu'il faut sensibiliser pour savoir autour de ce qui se passe, parce qu'on sait aujourd'hui que le gouvernement sait ce qui se passe, mais il y a d'autres Canadiens, d'autres Québécois qui ne savent pas vraiment ce qui se passe autour de tout ça.
Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que la date a été déjà fixée?
Oui, la date est fixée. Nous quitterons le 18 juillet pour arriver le 25 juillet à Ottawa.
Waouh.
Bravo.
Oui. Allez, tout lâche de quelque chose, tu veux?
Non, non, je serais peut-être prête.
Oui. Tu vas pas me laisser seul en
studio. Je vais faire bouger mes baskets. Ah,
tu vas pas me laisser seul en studio ici quand même.
Ben, je te parlerai du défilé.
Excellente idée.
Non, tandis que l'heure d'émission, on va s'arranger à ce que.
Je ferai un direct.
Ah oui, avec son téléphone, avec son iPad, et puis puisse être en direct et puis nous faire l'émission avec moi. Et vous attendez à peu près combien de personnes, Adi?
Vu vraiment l'engouement autour de tout ça, vu vraiment l'engagement de la jeunesse, et c'est-à-dire de toutes ces organisations partant des organisations de femmes progressistes, des féministes, des étudiants, des sans-papiers, mais aussi des citoyens même québécois et canadiens.
Oui, oui, qui seront en vacances en juillet, voilà, qui auront le temps de vous accompagner.
Oui.
Il y a d'autres même qui ne seront pas en vacances, mais qui déjà essayent de mettre dans leur calendrier des vacances pour cette période.
Pour être là.
Donc, on se dit que le minimum, au départ, nous serons au minimum 200 personnes.
Ah,
minimum,
voilà, joli, c'est vraiment
ceux qui vont venir s'ajouter à la dernière minute là. Oui. Ok, Adi, on va écouter, on va aller en musique pour vous permettre de souffler un peu, et puis on revient avec la suite de ce beau travail que vous faites là avec les soi-disant sans-papiers. On va en musique avec Laurence Nerbonne, première ministre.
Get it, pop le champagne. On a get it, on pop le champagne. Cœur balétique, on drop à scandale. Grosse esthétique, on est sur notre X. On est prolifique, on reste politique. La grosse rap game money, t'es juste riche dans toute history. La grosse top line buddy, arrête bro, t'es pas Colibri. Work ton flow baby, c'est mou comme la crème chantilly. T'es home alone rookie pendant que j'produce à Paris. Hey, plus de money pour ma campagne. Hey, futur ministre dans les sondages. Hey, j'ai ma business dans mes sandales. Hey, 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 hey. Plus de money dans ma campagne. Hey, futur ministre dans les sondages. Hey, j'ai ma business dans mes sandales. Hey, 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 hey. Gros déjeuner continental. J'suis ton PDG international. Ouvre ta télé, bro, mon nom toujours en capital. Prends un numéro si tu veux get les initiales. Brain dead, deadline, on s'en calisse. Grosse vie, jet lag, première ministre. Hater, red flag, j'connais les risques. Later y'all gonna work on my business. Hey, plus de money pour ma campagne. Hey, futur ministre dans les sondages. Hey, j'ai ma business dans mes sandales. Hey, hey. Plus de money dans ma campagne. Hey, futur ministre dans les sondages. Hey,
la première des premières ministres. Je voyageais sans classe à faire jamais en déficit. J'suis en train de faire changer la game, j'ai peur de toutes mes shit. J'suis en train de faire changer ton site, tu deviens féministe. We're about to run it up, hold up, let me fuck you up. Mary Buck court plus vite que le tien, come on keep it up. Cette bosse mon star girl, well, t'es pas Thai squirrel. Nous sommes minés dans la cour, j'suis en finale, ça sent la coupe.
Nadi,
ouais.
Vous êtes toujours là?
Oui, je suis là.
Oui, avant de vous laisser la parole, je m'explique pourquoi est-ce que j'ai dit les soi-disant enfants sans papier. C'est un terme que j'aime pas du tout. C'est des personnes qui sont en situation irrégulière, on peut dire ça comme ça. Et ben, on prend possession d'irrégularité ou bien quelque chose comme ça. On peut aller dans les détails, on les surnomme les sans-papiers. Bon, ben, c'est comme ça, il y a d'autres qui les appellent comme ça. Mais moi, c'est un terme principalement que j'aime pas du tout, voilà. Alors, on va.
Oui, je comprends.
Oui, non, je ne le dis jamais, les sans-papiers. J'emploie d'autres termes pour ça, quoi. C'est pour aller des soi-disant sans-papiers. Alors, cette marche de 7 jours, moi, ça me fascinait. Ça, c'est la marche historique pour moi. C'est... Alors, les acteurs principaux. Quand vous avez approché ces organismes-là qui sont avec vous, qui ont été avec vous à la conférence, tout ça, là, quelle a été leur réaction?
Très positif. Tout de suite, le message est passé. On n'a pas vraiment. Senti un effort pour faire comprendre le message. Ouais. Parce que aussi, il faut reconnaître que c'est des gens qui sont sur le terrain, qu'on côtoie en général,
oui.
Parce que quand ils organisent des choses, nous sommes là, et quand nous organisons, ils sont là. Donc, le message est passé comme vraiment une lettre à la poste. Donc, on n'a pas vraiment vu que ça dure un refus ou bien ça dure des hésitations autour de ça.
Wow. Intéressant. Et vous, depuis quand vous êtes engagé dans ce milieu-là?
Moi, ça, avec SSF, ça fait bientôt 2 ans
que oui.
je suis avec SSF.
Oui.
Mais mon combat pour la dignité humaine a commencé très très tôt. Parce que d'abord dans mon pays d'origine, là où je suis né.
Oui.
Parce que là aussi, j'ai traversé pas mal de choses. C'est pourquoi le combat pour le droit de l'homme...
C'est un principe
de vie. Parce que j'ai vécu des choses à mon adolescence. À 16 ans, j'ai connu la prison. J'ai connu le racisme.
Il faut le préciser, vous êtes originaire de la Mauritanie.
Je suis originaire de la Mauritanie.
Oui.
J'ai vu des femmes violées. J'ai vu des...
Oh mon Dieu.
J'ai vu l'esclavage. Donc j'ai vécu pas mal de choses. C'est pourquoi, pour moi, le combat de la dignité humaine, c'est un principe de vie.
Dans votre vie à vous, c'est une lutte incessante, quoi.
Voilà, c'est ça ma vie. J'ai décidé de décerner ma vie à ça, et je me retrouve dans tout ça, et je trouve que c'est noble. Je suis très content si je sens que j'ai fait quelque chose. Donc, je ne peux plus. C'est devenu que ma drogue à moi.
Oui.
Ma drogue à moi.
J'aime ça,
je comprends ça.
C'est vrai. Oui. Et cette histoire de... D'ailleurs, il va falloir un jour, un peu plus tard, avoir quand on pourra recevoir les gens en studio, peut-être que je vais vous inviter pour venir parler un peu de cette histoire en Mauritanie, là, encore qui persiste. Ça ne prend pas fin. Voilà.
Ouais.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous demander encore? Effectivement, quelle serait la suite après cette marche? Quelles sont vos attentes de la part du gouvernement fédéral? Des décideurs, le ministère de l'immigration fédérale, le ministère de l'immigration provinciale, qu'est-ce que vous attendez d'eux?
Nous, on attend juste...
La régularisation de tous ceux qui sont là actuellement.
Voilà, un programme de régularisation
oui.
de tous aujourd'hui ceux qui n'ont pas un statut dans ce pays.
Oui.
Parce qu'il y va de la vie humaine.
Mmh.
Aujourd'hui, avec cette pandémie, avec tout ce qui se passe autour de cette pandémie.
Oui.
D'ailleurs, même ceux qui ont aujourd'hui un statut sont exposés parce que ces gens ont peur d'aller se faire consulter. Ils peuvent même être rejetés pour ce que c'est parce qu'ils n'ont aucune couverture maladie.
Sociale, ah oui.
Mais comment, c'est-à-dire aujourd'hui, on parle, bon, voilà, il faut tout faire pour arrêter la pandémie et qu'il y a des gens qui n'osent pas aller se faire tester. Comment on peut arrêter dans ces conditions-là? Donc,
je ne sais pas. Nous,
parce qu'ils sont en situation irrégulière.
Ouais. Et indépendamment de tout ça aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Canada, on ne peut pas concevoir qu'il y ait un esclavage ici au Canada, parce qu'il y a des gens qui sont utilisés par certains passeurs, tu vois, et ils les font travailler quand ils veulent, ils les payent, quand ils veulent, ils ne payent pas, donc ils n'osent pas aller porter plainte. Il y a des femmes qui souffrent parce qu'elles sont utilisées par certains hommes comme proxénètes, comme... c'est-à-dire comme des objets sexuels et tout, parce que tout simplement, ils savent qu'elles n'osent pas aller porter plainte parce qu'elles ont peur.
Oui.
Donc ça, ça se passe ici au Canada. Et moi, je me dis que, c'est-à-dire si on me disait que c'est en Mauritanie, je peux comprendre, mais au Canada, j'ai jamais, jamais pensé que des choses pareilles peuvent se passer sur ce territoire. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est des choses que je vois tous les jours. Donc, je ne peux pas, c'est-à-dire me ranger dans un silence, et parce que ce silence sera coupable. Donc, pour moi, aujourd'hui, que tout celui qui est vraiment intéressé par la dignité humaine, tout celui qui dit non à l'exploitation de l'homme par l'homme, doit être debout et dire non à cette situation et vouloir régulariser ces personnes. Parce que aussi, quand ils ont quitté leur pays, leur famille, ce n'est pas un choix. Ou ils ont des dictateurs qui écrasent tous ceux qui sont devant eux. Il y a des guerres, il y a la famine. Il y a pas mal de choses qui se passent sur leur territoire. Et il y a ces pays du Nord aujourd'hui qui sont présents dans ces pays et qui exploitent, c'est-à-dire le sous-sol de ces pays, soi-disant que c'est des richesses.
Bien même sûr.
Même avec ça, notre planète aujourd'hui est en jeu.
Oui, elle ne va pas bien. Elle se porte mal.
Et l'avenir de nos enfants et l'avenir des générations à venir est en jeu.
Oui.
Et c'est ça aussi les conséquences de l'exploitation de l'environnement, de détérioration de la planète. Voilà, nous avons aujourd'hui des migrants qui sont là et on dit, voilà, c'est des papillons, on peut les juger comme étant des parias, mais ils ne le sont pas. C'est parce que juste on ne les a pas mis dans des conditions pour rester chez eux.
Oui. Cette lutte menée par les personnes migrantes pour la dignité humaine et l'égalité trouve des alliés dans des mouvements qui luttent contre le racisme et pour les droits des personnes noires, contre le colonialisme et pour la souveraineté autochtone aussi, et contre le patriarcat et pour l'autonomie des femmes, contre la gentrification et pour le droit au logement. Mais vous touchez à tout, quoi. C'est un domaine très vaste.
Mais il le faut. C'est pourquoi je vais vous raconter, peut-être, si on a un peu de temps, un petit truc qui m'a frappé au début de la pandémie.
Oui.
Lorsqu'on commençait à parler des anges gardiens et des travailleurs essentiels, je fais partie des premiers qui disaient « Attention, on va vers un piège, parce qu'on va catégoriser l'être humain.
Oui. »
Parce que quand on parle de personnes essentielles, après on va parler de personnes non essentielles.
Évidemment.
Est-ce que on peut dire qu'il y a une vie humaine qui n'est pas essentielle? Je dis que ça, c'est des gens entendus, c'est du discours politique. Attention.
Oui.
J'ai fait une alerte et plusieurs personnes à un certain moment ont hésité. J'ai dit que moi, s'il y a une seule personne qui a un statut, pour moi, c'est une victoire. Mais essentiel, j'ai peur de ça. Je peux comprendre service essentiel, mais personne essentielle, travailleur essentiel, je n'y crois pas. Et c'est qu'aujourd'hui,
moi non plus.
Beaucoup de ces gens qui avaient soutenu ce programme se disent frustrés.
Merci
Donc,
beaucoup.
Moi, je dis que je suis très content de ne pas soutenir le programme, même si je dis que ces gens ont droit à un statut.
Merci beaucoup, Adi Anne, porte-parole de l'organisation Solidarité sans frontières. Et, on peut s'inscrire sur votre site là, pour prendre part à cette marche historique qui aura lieu du 18
bientôt,
au 25.
Bientôt, il y aura, c'est-à-dire,
il y aura toutes les dates. Toutes les instructions. En tout cas, merci pour votre passion.
Merci à vous et merci de m'avoir donné la parole. Et j'en profite aussi pour remercier vos auditeurs et leur dire que nous sommes là et on nous tendons la main à tout le monde.
Merci beaucoup, Adi. Merci.
Merci.
Au revoir.
Bon vent. Merci beaucoup. Merci.
Bye.
s'est invitée, s'est assise à mes côtés. Elle a pris toute la place, elle ne manque pas d'audace. Elle parle pour ne rien dire, sans jamais trop réfléchir. Jamais elle ne met de point, de virgule, ni rien de rien. Elle ne s'arrête qu'au moment où il n'y a plus d'air en dedans.
Troisième étage. Voilà. Oui. En tout cas, c'est pas moi. On dira le fou du troisième étage.
Moi, j'habite au premier, donc je m'en sors bien.
J'habite le troisième. Alors, Ariette, comment tu trouves tout ça, cette marche historique?
C'est très intéressant et franchement, ça vaut la peine de l'écouter, de comprendre tout ce qu'il a à dire derrière. Et c'est quelqu'un que, à mon avis, peut-être tu devrais inviter, ne serait-ce que pour sa vie. Ce qu'il a traversé, qui nous explique un petit peu quel a été son cheminement.
Oui, c'est vrai.
Une autre fois, parce que ça a l'air d'être intéressant. En tout cas, nous sommes arrivés au bout, donc au bout de cette heure. J'espère que ça vous a plu à toutes et à tous. Et je remercie
Et toi, merci de m'avoir
Anna
fait découvrir.
Pfeiffer Kiros.
Je vais aller voir sa pièce qui démarre demain.
Oui, qui démarre demain. Donc, oui. Allez voir sur le site. Et puis, c'est le Théâtre aux Écuries qui s'en occupe. Donc, voilà, donc ça sera bon. Merci, monsieur Adi Anne.
Ouais, Adi Anne. Anne, comme Anne, Adi, c'est H-A-D.
Comme le prénom.
Comme le prénom Anne. Anne. Là, c'est au masculin.
Oui, c'est vrai. Donc, on peut aussi aller voir, donc, je pense, sur leur site.
Oui, ils ont un site web, comme on appelle ça, Solidarité sans frontières, en un seul mot, point com.
Je ne me trompe pas. C'est bon, donc il faut, pour ceux qui peuvent ou qui ont envie de faire cette marche, pour ceux qui veulent aller au théâtre ou de regarder de leur salon. Enfin bref, voilà tout ce qu'on vous a présenté. Et demain, on vous présente encore autre chose. Alors, bonne soirée à toutes et tous. Merci Maurice Bolduc pour les musiques. Ouais. Merci puis, Fulgence.
Florine, merci à toi.
À demain.
On se voit demain.
Pour notre dernière journée de la semaine avant Pâques. Wouhou !
Prenez soin de vous. De nouveau, de vos minutes, ça fait longtemps. Et attendez, hein.
Demain.
N'oubliez pas qu'on est rediffusé du lundi au samedi, 5h du matin. Okay. C'est pas Arlette et moi, mais c'est Regards Croisés.
Merci, au revoir.